Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 6, chapitre 2. Sommaire. L'instant, limite du passé et de l'avenir, est indivisible et identique. Conséquences absurdes si l'on soutient que l'instant est divisible. Il n'y a ni mouvement ni repos dans la durée d'un instant. Démonstration de ces deux propositions. Paragraphe 1. Il faut également que l'instant, considéré non d'une manière relative, mais en soi, dans le sens absolu, soit indivisible, et qu'il demeure indivisible dans un temps quelconque. C'est une extrémité du passé au-delà de laquelle il n'y a aucune portion de l'avenir et une extrémité de l'avenir en deçà de laquelle il n'y a aucune portion du passé. C'est donc, comme nous l'avons dit, la limite des deux. Paragraphe 2. Et si l'on démontre qu'une telle limite existe en soi et qu'elle reste identique, il sera démontré du même coup qu'elle est indivisible. Paragraphe 3. Or, il y a nécessité que l'instant soit identique, puisqu'il est l'extrémité des deux camps. Car s'il était différent, l'un des instants ne serait pas à la suite de l'autre, parce qu'il n'y a pas de continu qui soit composé d'indivisibles sans partie. Et si l'un et l'autre sont séparés, il y a du temps entre les deux, puisque tout continu doit être tel qu'il y ait quelque chose de synonyme et d'homogène entre les limites. Mais, si c'est le temps qui est intermédiaire, ce temps sera divisible, puisqu'il est démontré que le temps peut toujours se diviser. Par conséquent, l'instant est divisible. Mais si l'instant est divisible, il y aura quelque chose du passé dans le futur et quelque chose du futur dans le passé. Et alors, cela même qui divisera l'instant délimitera le temps présent et le temps futur. Paragraphe 4. Par la même raison, l'instant ne serait pas en soi, mais il serait relatif, et par un autre. Car la division ne peut pas atteindre ce qui est en soi. Paragraphe 5. De plus, l'instant se partagera. Une certaine partie sera du passé et une autre partie de l'avenir. Et ce ne sera pas toujours le même passé ni le même futur. L'instant, évidemment, ne sera pas davantage le même, car le temps est divisible de bien des manières. Par conséquent, si l'instant ne peut avoir ses caractères, il faut nécessairement que l'instant qui est dans l'un et dans l'autre temps soit le même. Paragraphe 6. Mais si c'est le même, il est clair aussi qu'il est indivisible, car s'il était divisible, il en résulterait les mêmes conséquences qu'on vient d'énumérer plus haut. Paragraphe 7. Ainsi, il est démontré qu'il y a dans le temps quelque chose que nous appelons l'instant et qui est indivisible, comme on vient de le voir. Paragraphe 8. Voici maintenant ce qui prouvera qu'il n'y a pas de mouvement possible dans la durée de l'instant. S'il y a mouvement, en effet, le mouvement peut alors y être ou plus rapide ou plus lent. Soit l'instant N, et que le mouvement plus rapide en lui soit AB. Le mouvement moins rapide qui a lieu dans le même instant parcourra une distance moindre que AB, soit la distance AC. Comme le mouvement le plus lent ne parcourt dans tout l'instant que la distance AC, le mouvement plus rapide la parcourra en un temps moindre. Donc, l'instant sera divisé. Or, on le supposait indivisible. Donc, le mouvement est impossible dans la durée de l'instant. Paragraphe 9. Mais il ne se peut pas davantage que, dans cette durée, il y ait du repos. Quand on dit repos, cela s'entend d'un corps qui, par nature, doit se mouvoir et qui ne se meut pas quand naturellement il le doit, là où il doit et de la façon qu'il doit. Mais comme rien ne peut naturellement se mouvoir dans la durée de l'instant, rien ne peut non plus s'y reposer. Paragraphe 10. Que si l'on prétend que l'instant est en le même dans les deux temps, il se peut alors que dans l'un tout entier il y ait mouvement, et que dans l'autre il y ait repos, et que ce qui se meut dans le temps tout entier sera mu aussi dans l'un quelconque de ces éléments, où naturellement il doit se mouvoir, ce qui est en repos y étant aussi dans la même condition, il en résultera que la même chose sera tout à la fois en mouvement et en repos, puisque l'instant est la même extrémité de l'un et l'autre temps. Paragraphe 11. Enfin, on dit d'une chose qu'elle est en repos quand elle-même et ses parties sont dans l'instant actuel ce qu'elles étaient auparavant. Mais, dans un instant, il n'y a pas d'auparavant, et par conséquent, il n'y a pas de repos. Paragraphe 12. Donc, nécessairement, c'est dans un certain temps que doit se mouvoir ce qui se meut et se reposer ce qui se repose. Chapitre 3. Sommaire. Tout ce qui change est divisible, puisque tout changement suppose nécessairement au moins deux états, l'un d'où part le corps et l'autre où il arrive. Paragraphe 1. Tout ce qui change est nécessairement divisible, puisque tout changement part de tel état pour arriver à tel autre. Or, quand la chose est dans l'état vers lequel elle a tendu en changeant, elle ne change plus. Et quand elle est encore dans l'état qu'elle doit changer, ni elle, ni aucune de ses parties ne changent encore, puisque ce qui reste au même état ne change pas, ni lui, ni ses parties. Il faut donc nécessairement que quand la chose change, une de ses parties soit en tel état et l'autre partie dans l'autre état. Car il n'est pas plus possible ni qu'elle soit dans les deux tout entières, ni qu'elle soit dans aucun. J'entends par là ce en quoi elle change et qui apparaît d'abord dans le changement. Ainsi, le corps passe du blanc au gris d'abord, et non point au noir, car il ne faut pas de toute nécessité que ce qui change soit dans un quelconque des deux extrêmes. Donc, il est évident que tout ce qui change est divisible. Chapitre 4. Sommaire. Des deux manières dont le mouvement est divisible, selon le temps et selon les parties du mobile. Examen de ces deux divisions du mouvement. Démonstration de la division du mouvement selon les parties. Démonstration selon le temps. Paragraphe 1. Le mouvement peut être divisé de deux manières. D'abord selon le temps, et ensuite selon les mouvements des diverses parties du mobile. Paragraphe 2. Si, par exemple, AC se meut tout entier, la partie AB et la partie BC seront également en mouvement. Soit DE le mouvement de AB et EF le mouvement de BC, c'est-à-dire des parties. Il faut nécessairement que le mouvement entier de AC soit DF. C'est en effet selon ce mouvement que le corps doit se mouvoir, puisque chacune des parties se meut selon chacun de ses mouvements particuliers, et que nul corps ne peut avoir le mouvement d'un autre. Ainsi, le mouvement total est le mouvement de toute la grandeur. Paragraphe 3. De plus, si toujours le mouvement est le mouvement de quelque corps, et si le mouvement total DF n'est ni le mouvement d'aucune des deux parties, chaque mouvement particulier appartenant à chacune des parties, ni le mouvement d'aucun autre corps, car là où le mouvement total est celui du corps entier, les parties du mouvement sont les mouvements des parties du corps, et les parties de DF sont les mouvements de ABC et non d'un autre corps, puisqu'un mouvement ne peut, comme on l'a vu, appartenir à plusieurs corps. Il est clair que le mouvement entier DF est celui de toute la grandeur AC. Paragraphe 4. Si, en effet, le mouvement du corps entier est autre, par exemple HI, on pourra en retrancher le mouvement de chacune des parties. Mais si ces mouvements sont égaux à DE, EF, car il n'y a qu'un seul mouvement pour un seul corps, mais ces mouvements sont égaux à DE, EF, car il n'y a qu'un seul mouvement pour un seul corps. Par conséquent, si le mouvement total HI est partagé exactement dans les mouvements des parties, HI sera égal à DF. S'il manque quelque chose, comme KI, ce ne sera le mouvement de rien, car ce n'est ni le mouvement du tout, ni le mouvement des parties, puisqu'il n'y a qu'un seul mouvement pour une seule chose, ni le mouvement de quoi que ce soit, puisque le mouvement est continu pour des mobiles continus. Il en serait d'ailleurs encore de même si au lieu de manquer, il y avait de l'excès après la division. Par conséquent, comme tout cela est impossible, il faut nécessairement que le mouvement soit le même et qu'il soit égal. Paragraphe 5. Telle est la division du mouvement d'après les mouvements des parties, et il faut qu'elle s'applique à tout corps qui a des parties. Paragraphe 6. L'autre division du mouvement se rapporte au temps. Comme tout mouvement, en effet, elle est dans le temps. Et comme le temps est toujours divisible et que le mouvement est moindre dans un temps moindre, il en résulte nécessairement que le mouvement est toujours divisible selon le temps. Chapitre 5. Sommaire. Les divisions du temps et du mouvement sont réciproquement identiques. Elles le sont également pour le résultat du mouvement, pour le mobile et pour le lieu où le mouvement se réalise. Démonstration de cette proposition pour le temps, pour le résultat du mouvement, pour le mobile et pour la longueur. Rapport de la divisibilité et de la finitude. Paragraphe 1. Comme tout ce qui se meut doit se mouvoir dans une certaine chose et dans un certain temps, et que tout mouvement suppose un mobile, il faut que les divisions soient les mêmes pour le temps et le mouvement, comme aussi pour le résultat du mouvement, pour le mobile et pour le lieu où le mouvement se passe. Seulement, la division ne se fait pas de la même manière pour toutes les choses où le mouvement est possible. Et, par exemple, pour la quantité, la division y a lieu en soi, tandis que pour la qualité, elle n'a lieu qu'accidentellement et indirectement. Paragraphe 2. Soit le temps dans lequel le mouvement a lieu, représenté par A, et le mouvement représenté par B. Si, dans le temps total, le mouvement total s'accomplit dans la moitié du temps, le mouvement sera moindre. En divisant encore cette moitié, il sera moindre encore, et ainsi de suite. Paragraphe 3. De même, si le mouvement est divisible, le temps est divisible comme lui. Si le corps accomplit tout le mouvement dans tout le temps, il en accomplit la moitié dans la moitié du temps. Paragraphe 4. Le résultat du mouvement se divisera encore de la même façon. Par exemple, soit C le résultat du mouvement. Dans la moitié du mouvement, ce résultat sera moindre que dans le tout, comme il le sera encore dans la moitié de la moitié, et ainsi sans fin. Paragraphe 5. On peut d'ailleurs, en considérant le résultat séparément dans chacun des mouvements, que tel que DC et CE, soutenir que le résultat total du mouvement sera obtenu par le mouvement total. Car, s'il en était autrement, il s'ensuivrait que plusieurs résultats de mouvement pourraient venir d'un seul et même mouvement, tout comme nous avons démontré que le mouvement pouvait toujours se diviser dans les mouvements des parties. Car en supposant même qu'il y ait un résultat dans chacune des deux parties, le résultat total n'en sera pas moins continu. Paragraphe 6. Ainsi, on démontrerait de la même façon que la longueur aussi est divisible et en général tout ce dans quoi il y a changement, sauf quelques exceptions où la division est indirecte, car tout ce qui change est divisible, et un seul de ces termes pouvant se diviser, tous les autres le peuvent également. Paragraphe 7. La position de tous ces termes sera semblable quant à être fini ou infini, mais la conséquence la plus conforme à l'idée du changement, c'est que tous soient divisibles et divisibles à l'infini. Car l'infinitude et la divisibilité sont les caractères les plus certains et les plus évidents de ce qui change. Quant à la divisibilité, on l'a démontré dans ce qui précède et pour l'infinitude, on la démontrera dans ce qui va suivre. Chapitre 6. Sommaire. Loi générale du changement. Ce qui a changé passe immédiatement dans l'état nouveau qu'il prend. Application de ce principe au changement par contradiction, passant d'un contraire à l'autre, c'est-à-dire du non-être à l'être. Analyse des diverses espèces de changement. Confirmation du principe. Paragraphe 1. Comme tout ce qui vient à changer change de tel état dans tel autre état, il s'ensuit nécessairement que ce qui a changé, dès le premier moment qu'il a changé, doit être dans la chose dans laquelle il a changé. En effet, ce qui change sort de l'état qu'il change, ou si l'on veut, il quitte cet état. Et certainement, ou changer et quitter son état sont deux idées qui se confondent. ou bien l'idée de quitter est la conséquence de celle de changer, comme avoir quitté est la conséquence d'avoir changé. Car le rapport de l'un de ces termes à l'autre est absolument pareil pour les deux cas. Si donc, c'est une espèce de changement que le changement par contradiction. Quand une chose change du non-être à l'être, elle a quitté et perdu l'état de non-être. Elle fera donc partie de l'être, car il faut, de toute nécessité, qu'une chose soit ou ne soit pas. Par conséquent, il est clair que pour le changement par contradiction, la chose changée sera dans la chose en laquelle elle a changé. Et, s'il en est ainsi dans ce changement spécial, il en sera de même pour tous les autres changements, car il en est pour tous ce qu'il en est pour un seul. Paragraphe 2. On peut encore aisément s'en convaincre en considérant à part chacun des changements, puisque nécessairement, ce qui a subi le changement doit être dans un certain lieu ou dans une certaine chose. En effet, comme il a quitté l'état qu'il a changé, et qu'il faut bien qu'il soit quelque part, il sera ou dans cet objet dans lequel il a changé, ou dans un autre. S'il est dans un autre, et que ce soit en C, par exemple, ce qui a changé en B doit encore changer de C en B, car C n'est pas supposé continuer à B. Or, le changement est continu. Par conséquent, ce qui a changé quand il a déjà changé, change en ce en quoi il a déjà changé. Mais cela n'est pas possible. Donc, ce qui a changé doit naturellement être dans ce en quoi il a changé. Paragraphe 3. Par suite, il n'est pas moins évident que ce qui a été est au moment où il a été et ce qui a péri n'existe plus. Mais ces généralités qui s'appliquent à toute espèce de changement s'appliquent surtout avec évidence au changement qui se marque par la contradiction. Paragraphe 4. Ainsi, l'on voit que ce qui a changé est dès le premier moment qu'il a changé dans l'objet en lequel il change. Chapitre 7. Sommaire. L'instant où le changement a primitivement lieu est indivisible. Démonstration que cet instant ne peut pas être divisible. Paragraphe 1. Nécessairement, l'instant primitif où a changé ce qui a changé doit être indivisible. Paragraphe 2. J'entends par primitif ce qui n'a pas cette qualité parce qu'il y aurait en lui quelque autre partie qui serait primitive. Supposons, par exemple, AC divisible et qu'il soit divisé en B. S'il a changé en AB ou ensuite en BC, c'est que le changement n'a pas eu lieu dans le primitif AC. Si le changement a lieu dans l'un et l'autre, AB et BC, puisqu'il y a nécessité que le corps ait changé ou qu'il change dans l'un et l'autre, il change dans le tout. Mais on a supposé qu'il avait changé dans AC. Même raisonnement, si l'on suppose qu'il change dans l'un et qu'il a changé dans l'autre, car alors il y a quelque chose d'antérieur au primitif, par conséquent, cet instant primitif où l'objet a changé n'est pas divisible. Paragraphe 4. D'ailleurs, il n'est pas moins évident que ce qui a péri ou est né a péri aussi ou est né dans un instant indivisible.